Alors, je voudrais parler d'abord du groupe Kakla, qui est un groupe de femmes indiennes qui ont justement, après avoir participé dans les organisations révolutionnaires classiques, on va dire marxistes-léninistes, ont trouvé que, et puis après donc, des années de guerre et ce processus de paix qui, somme toute, s'avère quand même un petit peu décevant, ont décidé de retourner, en quelque sorte, vers leurs racines indiennes et de faire un travail, notamment autour de rituels, un travail de ce qu'elles ont appelé la sanation. Donc c'est un tout petit peu difficile à traduire le concept de sanation. On peut le traduire de manière un peu plate, comme le fait comment est-ce qu'on peut traduire sanation? De rendre plus sain, de guérir, c'est un petit peu comme care, c'est un mot difficile à traduire. Mais c'est quelque chose qui inclut une sanation physique et aussi une sanation spirituelle, et surtout quelque chose de collectif autour de la mémoire et de la justice. Ce groupe Kakla est justement un des groupes qui a participé au travail avec les femmes qui progressivement ont dénoncé la violence sexuelle des années 80. Il y a aussi le développement de, on va dire, suite à notamment la migration vers les villes, notamment d'ailleurs suite à l'expulsion des campagnes pendant la guerre, il y a le développement d'un certain nombre d'intellectuels indiennes, de femmes intellectuelles indiennes, qui se revendiquent en partie à différents titres du féminisme. Et je pense, pour les personnes qui lisent l'espagnol, ça peut vous intéresser de lire le travail notamment de Gladys Sulzul, qui fait référence à l'expérience des 48 communautés de Totonicapán, qui justement ont eu une gestion très intéressante de la question des terres, et ça fait écho à ce qui était dit tout à l'heure sur la double ligne de transmission maternelle et paternelle. Donc elle fait une réflexion que je ne vais pas détailler maintenant, mais sur la manière dont les femmes d'un groupe très particulier, donc de Totonicapán, ont historiquement réussi, malgré l'imposition de logiques patriarcales de transmission des terres et puis de logiques individualisantes de transmission des terres, ont réussi à préserver, on va dire, l'accès collectif aux terres. C'est une question complexe qui mériterait de nombreux développements, mais c'est une réflexion très intéressante, donc Gladys Sulzul. Et puis, il y a un troisième groupe, ou une troisième personne dont je voudrais parler, c'est le groupe Alice Massard, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et Lorena Cabanal, donc, qui est une femme qui est à la fois Maya et Xinka, donc elle a deux origines indiennes différentes. Et donc, dans la montagne Xinka, dans le sud du pays, une région qui avait été beaucoup moins touchée de manière différente par la guerre. Au moment, à partir de 2004, quand arrive vraiment ce tournant extractiviste et le gouvernement, n'ayant pas de solution économique à proposer, disons, cède une très grande partie du territoire guatémaltèque en concession aux transnationales minières. Ce tournant extractiviste, vous le savez, il est lié à l'augmentation du prix des matières premières. Donc, OK, le gouvernement guatémaltèque donne en concession à peu près 25% du territoire et notamment des zones dans le territoire de la montagne Xinka. Et là, Lorena Cabanal, avec d'autres femmes indiennes, qui faisaient un petit groupe de femmes qui travaillaient à la base pour lutter contre notamment les violences faites aux femmes, notamment enfin, les violences en vérité, ont commencé avec la lutte pour la santé, parce que plusieurs femmes avaient perdu leurs enfants de maladies extrêmement, genre des grippes, des petits rhumes, etc. C'est un petit groupe qui a vraiment une action très concrète. Et elle se retrouve progressivement embarquée, si je peux dire ça comme ça, dans la lutte contre l'extractivisme. C'est en lien avec, de nouveau, les autres groupes de femmes indiennes et de femmes indiennes féministes ou pas, et de féministes urbaines qui étaient dans ce processus de lutte pour la visibilisation des violences sexuelles, que progressivement ce groupe Amis Massar, d'une part, se revendique féministe et d'autre part, on vient à faire le lien entre donc la défense du territoire corps et la défense du territoire terre. Ou bien, pour le dire d'une autre manière, des luttes et des revendications féministes et puis des luttes et des revendications que de l'extérieur on pourrait considérer comme écologistes, de défense du territoire, etc. Ou de manière générale, des revendications indiennes. Quel temps me reste-t-il à peu près? Moi, comment vous avez compté?
Il reste un quart d'heure.
Non, mais on a commencé avec quoi? Au moins 15 minutes. Donc, il vous reste encore au moins 5 ou 10 minutes. minutes à parler. 10 minutes, c'est
ça. Alors, peut-être. Voilà, peut-être développer un tout petit peu cette question de la mise en lien entre le territoire terre et le territoire corps, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très fort. D'un côté, on pourrait penser que c'est très naturaliste et un regard simplificateur, disons, pourrait dire oui, bon voilà, elles assimilent le corps des femmes, la nature, etc. Il me semble que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et il me semble que c'est très intéressant de voir que ce sont des femmes, que ce sont des personnes indiennes, que ce sont des personnes rurales, que ce sont des personnes en grande partie, on va dire, analphabètes en espagnol, qui sont dans une zone, par exemple, le téléphone cellulaire n'arrive pas, enfin, qui ont pensé et qui ont renouvelé, disons, à la fois les luttes écologistes, les luttes indiennes et les luttes féministes en mettant en avant cette... ce slogan ou cette double consigne « défense du territoire corps, défense du territoire terre ». Et en réalité, moi, ce qui me semble, c'est que ce n'est pas le naturalisme qui relie le territoire terre et le territoire corps, c'est une analyse de la colonisation. Une analyse d'une colonisation qui est une colonisation avec une forte dimension patriarcale. Et en effet, la colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est systématiquement emparée à la fois du territoire et du corps des femmes. Et alors là, de manière très rapide, hein, mais cette réflexion, ça s'inscrit dans la réflexion féministe décoloniale inventée, imaginée en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui notamment met en avant la question des violences sexuelles contre les femmes depuis le début de la colonisation. Violences sexuelles, viols, mais aussi grossesse forcée, métissage forcé. Métissage forcé, ça veut dire aussi blanchiment forcé, même si c'est très compliqué, il faudra expliquer ce que c'est. Quelle est la conceptualisation de la race qui est sous-jacente à tout ça. Mais en réalité, donc, ce que ces femmes indiennes mettent en avant et mettent en lumière, c'est comment les logiques, pour le dire de manière très rapide, les logiques capitalistes ont besoin et se sont saisies de ce double en dehors la logique capitaliste, qui est l'en dehors de la nature et l'en dehors de la reproduction sociale et de la reproduction physique permise à travers, ou permise par, ou faite par les femmes. Alors, je vais essayer de le dire encore d'une autre manière pour que ce soit peut-être encore plus clair. Cette résistance simultanée ou cette défense simultanée du territoire terre et du territoire corps vraiment s'inscrit dans une lutte, et je voudrais aussi revenir un tout petit peu, ça permet de revenir sur l'introduction qui a été faite, où on disait que, où on a eu tendance à présenter l'écoféminisme comme quelque chose un petit peu peut-être de romantique, d'abstrait, de dire qu'il est né aux États-Unis. J'aimerais rappeler notamment le travail de Vandana Shiva avec Maria Miss, donc une femme du Nord, une femme du Sud, mais enfin dire à quel point toute une partie de l'écoféminisme, il a des racines du Sud, il a des racines paysannes et il a des racines de lutte également très importantes, antimilitaristes. Parce que ce qu'on voit bien, je n'ai peut-être pas réussi à vous montrer suffisamment bien, mais ce qu'on voit très très bien dans le cas du Guatemala avec cette violence des années 80 qui est une violence militaire et avec la violence actuelle de l'extractivisme, c'est que pour permettre l'extractivisme, encore une fois, au Guatemala, donc tournant extractiviste en 2004, qui se renforce en 2008, 2011-2012 par exemple, il y a eu plusieurs fois l'état de siège et en fait c'est l'armée qui a été envoyée pour imposer l'état de siège et pour que les mines puissent... commencer à essayer d'ouvrir dans différentes régions du Guatemala. Donc, l'armée, la police, envoyée sur les mêmes, dans les mêmes endroits où dans les années 80, l'armée, la police était envoyée pour faire la politique de la terre brûlée, avec les mêmes techniques, notamment de violence contre les femmes et de violence sexuelle et de viol, donc dans les années 80, et dans les mêmes zones, et quelquefois sur les mêmes femmes, et quelquefois ce sont y compris les mêmes... par exemple, anciens militaires ou anciens policiers qui sont devenus sécurité privée des entreprises minières, qui pratiquent les mêmes techniques. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir la continuité entre l'actualité des années 80 et les féministes communautaires d'Anis Massar montrent cette continuité encore sur le plus long terme, cette continuité coloniale, cette continuité de colonisation et, et d'exercice à la fois de violence et d'appropriation, encore une fois, sur les femmes, et sur le territoire. Donc voilà, pour essayer de boucler un petit peu la boucle, cette question de la défense simultanée du territoire terre et du territoire corps, qui est le, on va dire, le socle de ce qu'elles ont appelé le féminisme communautaire. C'est répandu sur tout le continent, hein, c'est devenu un mot d'ordre vraiment très très important. Il y a des Boliviennes qui, à peu près au même moment et sans concertation, ont développé le même genre de réflexion. Et maintenant, c'est vraiment repris de manière très, 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 très vaste. Encore une fois, vraiment, je voudrais insister sur le fait que même si une partie des gens font une assimilation tout à fait naturaliste entre terre, nature, corps des femmes, vraiment, une grosse partie aussi des personnes qui portent cette perspective, au contraire, elle voit ça dans une perspective historique, dans une perspective anti- et décoloniale et anti-militariste. Je pense que c'est vraiment très important. Donc là, je terminerai vraiment là-dessus. La lutte contre le militarisme me semble une composante extrêmement importante des luttes écoféministes, au moins de certaines luttes écoféministes. On le voit très bien avec le... Là, je voyais tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, le petit livre sur Greenham Common, hein, les luttes de Greenham Common, qui sont des luttes écoféministes très importantes, anti-militaristes, anti-nucléaires, 10 ans quand même, hein, en Grande-Bretagne. Et je pense que souligner cette question du militarisme en France, troisième exportateur et producteur d'armes et de doctrines militaires, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà, je termine comme ça et je vous remercie de votre attention.
Merci, super. C'est très bien de repréciser, comme vous le faites, cette question territoire-corps, territoire-terre.